Bonjour à tous et à toutes. Il faut le faire dans le sens inverse d'ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Ouais. En tout cas, ça me fait plaisir de voir quelques sourires. Parce que je vais vous faire une confession. J'avoue que pour moi, ce mois de janvier, il a été compliqué. Très compliqué même. À cause d'une charge de travail très importante où il y avait tout qui se cumulait, tout en même temps, avec une deadline au 31 janvier. Et je ne sais pas vous, mais de temps en temps, on ressent ce sentiment de trop-plein, ce sentiment d'un peu d'être submergé. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais en tout cas, moi, c'était le cas. Et en plus, ce qui était embêtant, c'est que ce sentiment d'être un peu submergé, il était aussi partagé par mon épouse. Alors d'habitude, on se soutient quand il y en a un qui va un peu moins bien, l'autre, il est là. Mais là, tous les deux, ça a été compliqué. Et puis en plus, janvier, je ne sais pas vous, mais son froid, les jours très courts, le poids sur la balance après les fêtes, tout ça là, c'est, je sais pas, c'est déprimant. Alors quand on est dans cet état, et finalement qu'on a la pression de partager un message et de trouver à nouveau quelques heures pour préparer, hein, quelques heures dans le planning, eh ben on se sent qu'on n'est pas forcément dans la bonne attitude, alors que ça devrait vraiment être une joie de préparer un message. Mais ce qui a été beau, en tout cas c'est ça que je voulais vous partager, c'est que quand je m'y suis mis, très tardivement, ça me fait penser qu'à mon père, de temps en temps, il mettait le réveil à 3h du matin pour préparer son message à 10h. Je lui dis, mais tu es fou, mais s'il n'y a rien qui te vient, qu'est-ce que tu fais le matin? Alors toujours, il a trouvé quelque chose. Moi, j'étais pas loin de ça, c'était hier soir. Mais d'habitude, je suis pris très à l'avance, là, c'était pas le cas. Mais en tout cas, quand je m'y suis mis, j'ai senti qu'au milieu de cette fatigue un peu physique et intellectuelle, la Bible m'a parlé, la Bible a créé en moi un enthousiasme et j'espère qu'en tout cas je vais arriver à vous le communiquer. Bon, ça n'empêche pas que je ferai une belle sieste après-midi, mais en tout cas, voilà, ça, c'est important, j'espère que je vais arriver à vous communiquer ça. Alors avant de démarrer, je vais quand même vous poser une question très simple. Est-ce que vous vous souvenez du thème de la série que nous avons commencé depuis le mois de janvier? Rechercher Dieu, c'est bien. Il y en a qui sont là, c'est parfait. Lors du premier culte, donc qui lançait la série, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon père nous rappelait que l'homme aimait chercher. Chercher le bonheur, chercher l'amour, chercher le succès, chercher Charlie. Mais pour chercher Dieu, ce n'était pas du tout la même histoire. Alors je m'aperçois quand même qu'il y a plein de nouveaux visages. Ça fait deux fois que je dis mon père. Alors, on ne fonctionne pas avec des curés ou des prêtres. Hein, au centre Martin Luther King, mon père, c'est juste mon papa. Hein, voilà, c'est juste mon papa. Mais de dire mon papa de l'estrade, ça ne le fait pas. Norbert, c'est aussi le pasteur, c'est encore pire pour moi. Je ne me vois pas dire à mes enfants, il y a le pasteur qui vient ce soir vous garder, vous voyez. Donc, ce n'est pas évident. Donc, si vous êtes d'accord, je vais dire mon père, si ça vous va bien comme ça. Bref, comme je le disais, mon père, donc celui sans soutane, rappelait que Dieu est à la recherche des hommes. Il est à la recherche des hommes dans son message d'introduction et il a rappelé le verset 10 de Luc 19 qui nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce verset-là. C'est donc bien lui qui fait la démarche de venir chercher l'homme afin de le sauver. Alors j'ai une seconde question à vous poser. Je vous ai dit que j'étais fatigué, donc je vous fais un peu travailler. La question est de savoir si quelqu'un peut me dire précisément à quel moment justement ce verset dans Luc 19 est cité par Jésus. Ne trichez pas, ne regardez pas dans Luc 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait à quel moment il est dit? Oui. Zachée. Cette parole de Jésus, elle est prononcée à ce personnage Zachée que les enfants adorent. Ce personnage qui a si souvent été le sujet de l'école du dimanche, en tout cas ça a été mon cas, c'est effectivement une belle histoire de la Bible, Zachée. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu certainement des dizaines de fois, mais moi quand je me suis posé 5 minutes, je n'en avais pas énormément plus, pour réfléchir à quel serait le personnage biblique qui reflète le mieux cette recherche réciproque de Dieu et de l'homme, Eh bien, c'est Zachée qui est venu à mon esprit. Et j'ai été encouragé de voir que finalement, le premier verset qui avait été nommé en démarrant cette série sur la recherche de Dieu, eh bien, elle était adressée à Zachée. Alors moi, je vous propose de relire cette histoire ce matin, cette histoire qui est une rencontre magnifique de l'homme qui est haï par les siens, mais qui a pu rencontrer son sauveur. L'histoire de cette rencontre qui va définitivement changer une vie. Mais ce que je vous propose, c'est de commencer aussi un tout petit peu plus en avant dans les versets, car je pense qu'on peut trouver un bel éclairage avec une autre rencontre qui est un petit peu moins connue, mais tout aussi belle. Alors je vous propose de démarrer, pour ceux qui ont leur Bible, au chapitre 18, verset 35. Cette histoire qui est juste avant Zachée, c'est celle du mendiant qui est aveugle. Comme Jésus était près de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce qui se passait. On lui dit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il fut près de lui, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » Il retrouva immédiatement la vue et suivit Jésus en célébrant la gloire de Dieu. Voyant cela, tout le peuple se mit à adresser des louanges à Dieu. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous furent murmurés en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus lui dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est là que ce verset arrive. Je pense qu'à cette époque, les mendiants faisaient partie davantage du paysage normal. Il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'allocation chômage, et on pouvait se retrouver dans la rue plus facilement, après un accident par exemple. Et donc le mendiant, cet homme ne valait pas grand-chose, aux yeux des hommes en tout cas. Mais il y a encore pire que ça. Et vous pouvez aller le lire dans Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, beaucoup pensent qu'être aveugle, eh bien, c'est la punition d'un péché. Quand je dis beaucoup, c'est précisément les disciples de Jésus eux-mêmes qui pensent ça. Si vous allez le lire, je l'ai noté. Ces versets disent « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. » Ses disciples lui posèrent la question « Maître, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» C'est une question de dingue, ça. Vous vous rendez compte, c'était pas suffisant que ce pauvre homme soit handicapé toute sa vie. Et en plus, il fallait qu'il ait fait un gros péché pour mériter ça. Ou pire, qu'il la tienne d'une malédiction à cause des péchés de ses parents. Dans le monde chrétien, c'est un discours que j'ai déjà entendu. Oh, de toute façon, s'il lui arrive ça, c'est qu'il a forcément péché. En d'autres termes, ça veut dire, s'il a eu cet accident ou cette maladie, c'est une punition de Dieu. Mais ce que nous devons retenir de ce passage, De mon point de vue, c'est la réponse salvatrice que va donner Jésus à ses disciples. Vous la connaissez, sa réponse ? Ce n'est pas lui, ce n'est pas que lui, où ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Ça a été ça, la réponse de Jésus. Finalement, moi, je ne saurais pas dire pourquoi il est aveugle. Je ne saurais pas dire pourquoi il a eu cette infirmité. Mais peu importe la raison, ce que dit Jésus, c'est qu'il peut se révéler à travers lui. En lui, et c'est précisément ce qu'il va faire. Il va cracher par terre, faire de la terre avec sa salive et l'appliquer dans les yeux de l'aveugle. Vous connaissez certainement cette histoire, qui va être guéri. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'une maladie soit la réponse à un péché que nous aurions fait. Ce que je sais, par contre, c'est que la maladie, je sais que la souffrance, ben, ce sont des conséquences du péché global de l'homme, car ce n'était pas ce qui était prévu par Dieu à l'origine. Ce que je crois aussi, c'est qu'à cause du péché originel et du fait que l'homme se soit détourné de Dieu, eh ben, on vit dans un monde déchu, où le bien il n'est pas toujours récompensé, où le mal il n'est pas toujours puni. Parfois, il y a des personnes qui souffrent sans que l'on sache pourquoi, ou qu'on comprenne pourquoi, et on trouve ça injuste. Mais ce qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que quelles que soient les raisons de notre souffrance, Jésus peut nous donner la force de la surmonter. Et je crois que notre rôle en tant que chrétien, c'est de prier pour demander la guérison à notre Seigneur. Pas pour accuser, pas pour essayer de chercher la raison, pas pour essayer de chercher un péché, mais on doit lui demander son action. Et surtout, que ses œuvres soient révélées à travers nous, et à travers ces circonstances-là. Si vous allez dans Marc 10, il y a la même histoire, et on nomme ce mendiant aveugle, on l'appelle Bartimée. Et donc Bartimée, il est en marge de la société, on l'a vu, il est certainement jugé par une partie de la population, parce que si les disciples de Jésus eux-mêmes le jugeaient, c'est certainement le cas aussi d'une autre partie de la population. Et cette population pense qu'il mérite son sort. Et en plus de ça, donc, il ne possède rien. Qu'en est-il de Zachée maintenant ? Zachée, lui, c'est le contraire. Il a un statut de notable et il semble très riche. À l'époque, je ne vous apprends pas, mais les Romains, ils avaient soumis à de lourds impôts le pays d'Israël. Et les collecteurs d'impôts figuraient parmi les personnes les plus mal vues du pays. Et en plus, ces collecteurs, ce n'étaient pas des Romains, c'était des Juifs de naissance. Mais ils avaient choisi de travailler pour l'envahisseur. Ils ont donc délibérément choisi de trahir leur pays. Mais vous savez le pire pour Zachée ? Eh bien, on nous dit que le gars, c'était le chef. C'était le patron des collecteurs d'impôts, le collabo personnifié. Le dernier des derniers, du coup. Et dans la Bible, c'est fou comme le métier de collecteur d'impôts, il est souvent associé à celui de pêcheur. Dans ma Bible, comme la vôtre, j'imagine, vous avez des petites marques qui vous renvoient vers d'autres versets. Ça vous permet de suivre un petit fil rouge. Et donc moi, j'ai regardé collecteur d'impôts, et puis j'allais sur un autre verset. Il y avait collecteur d'impôts et pêcheur. J'allais sur un autre collecteur d'impôts et pêcheur. À chaque fois, les deux sont associés. On les met au même rang. Ça va avec, finalement. On ne peut pas imaginer, finalement, qu'il y ait un collecteur qui soit un peu plus sympa que les autres. Ils sont tous mis au même rang, pêcheurs et collecteurs. Ils marchent ensemble et ce qu'on reproche souvent à Jésus, c'est d'aller à leur rencontre. Zachée, contrairement à Bartimée, donc, il est dans l'abondance de richesses et de biens. Il a sûrement une belle maison, d'ailleurs. Il ne manque de rien matériellement, mais quelle sécheresse! Quelle sécheresse d'amour il doit ressentir. Quelle solitude. Quelle vie à l'écart de la population qui le juge. Peut-être que l'aveugle, même, il a droit à davantage de compassion. Alors que Zachée, lui, il est haï de son propre peuple. Donc on a vu une différence de contexte pour ces deux hommes, qui ne sont pas exactement dans la même situation, mais par contre il y a un point commun pour ces deux personnes. Pour tous les deux, l'accès à Jésus est bloqué. Les personnes autour de Bartimée, l'aveugle, essayaient de le faire taire. Ils le reprenaient sans cesse. Ils lui demandaient d'arrêter pour ne pas importuner Jésus. « Tais-toi, tais-toi !» Zachée, lui, il n'arrive pas non plus à accéder à Jésus, parce qu'il est petit. Et la foule, forcément, représente une véritable opposition pour qu'il puisse approcher Jésus. Là, j'ai eu un petit coup de cœur aussi, où j'ai trouvé que la Bible, elle était fantastique de cohérence. Si vous regardez quelques versets plus haut, mais vraiment quelques lignes plus haut, avant l'histoire du mendiant, il y a encore un sujet où il est question d'obstacles pour rencontrer Jésus. Cette fois, il s'agit des disciples qui sont des obstacles. Finalement, ils sont pas très bons, ceux-là, quand on regarde dans le détail. Mais au verset 15 de ce même chapitre, il y a ce passage que vous connaissez tous, celui où les enfants veulent s'approcher de Jésus pour le voir. Mais les disciples, ils s'interposent et ils leur font des reproches. Jusqu'à ce que Dieu leur dise « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera pas. » En quelques lignes de la Bible, on voit donc ce thème qui est récurrent de personnes qui recherchent la personne de Jésus. Mais à chaque fois, un groupe s'interpose et représente un obstacle à l'accès à Jésus. Je crois aussi que c'est un thème qui peut être un peu récurrent dans nos vies. L'accès à Jésus est d'une simplicité enfantine. C'est simple. Il frappe à notre porte. Il attend de nous qu'on lui ouvre. Qu'on lui ouvre notre cœur. Mais les oppositions, les obstacles sont nombreux et ils peuvent prendre différentes formes. Il y a forcément des obstacles d'origine extérieure, comme le regard des autres. Il peut y avoir des gens qui se moquent, des personnes qui vous découragent à chercher Jésus, des circonstances de la vie qui nous mettent du doute. Mais il y a aussi des obstacles qui sont intérieurs. Cela se produit quand on a la tentation de renoncer à s'approcher de Jésus parce qu'on voit notre petitesse. Pas une petitesse physique, mais bien, elle est bien morale et spirituelle. L'obstacle, parfois, il est encore plus terre à terre. C'est le manque de temps. L'accès à Jésus est tellement facile. Et pourtant, les enfants, Bartimée, Zachée, aurait pu se dire que c'était impossible de rencontrer Jésus et de tout laisser tomber. L'obstacle est trop grand. Pourtant, ils sont allés au bout de leur initiative. Je pense qu'il leur a même fallu dépasser la gêne d'être la cible de tous les commentaires, de toutes les critiques. Vous savez, les gens, ils ont certainement vu Zachée lors de son ascension du sycomore. Je pense qu'il y en a plein qui ne se sont pas privés de se moquer de lui. Ça ne doit quand même pas passer inaperçu, un gars du fisc qui monte aux arbres comme ça, là. Mais Zachée, lui, ça lui est égal. Il cherche à voir Jésus coûte que coûte. Derrière moi, vous voyez, c'est le véritable arbre de Zachée. Tapez-le, on tombe là-dessus, j'ai tapé arbre de sachet, TripAdvisor, 3,5, donc si vous allez à Jéricho, il faut aller le voir, voilà, hop. Bon, est-ce qu'il est facile à grimper, je ne saurais pas, mais ça n'a pas l'air insurmontable en tout cas. Mais il le fait. Je ne sais pas si c'est celui-ci, mais c'est présenté en tout cas en tant que tel. Ça peut valoir un petit détour. Paradoxalement, ce que je pense, c'est que en montant au sycomore, sur le sycomore, Zachée s'abaisse davantage. Car une telle attitude, eh ben, ce n'est pas digne d'un notable de son rang, c'est le chef des collecteurs d'impôts. Mais pour moi, elle exprime la sincérité de sa démarche. L'envie de voir Jésus dépasse le reste. Finalement, vous savez quoi ? je crois qu'il agit comme un petit enfant. Il est dans l'attitude que souhaitait Jésus quelques versets plus haut. Un petit enfant qui grimpe aux arbres et dont le seul souci, c'est de voir Jésus. Dès que l'on a envie profondément de quelque chose, quand on aime quelque chose, on est en mesure de faire des folies, non ? Vous n'avez pas vécu ça ? Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils connaissaient ma peur bleue de prendre l'avion. C'était atroce pour moi, une vraie phobie. Et pourtant, mon épouse est américaine. C'est un peu embêtant. Et la première fois que je vais rejoindre Alissa aux USA, il m'a fallu faire cette folie de prendre l'avion pour l'Amérique tout seul. En plus, je n'étais même pas avec elle. Je peux vous dire que j'ai essayé tous les plans possibles et inimaginables. J'ai regardé le bateau, mais bon, le temps d'arriver là-bas, un bisou, il fallait que je revienne déjà, c'était la fin de mes congés. Alors, ce n'était pas simple pour moi. En plus, il y avait un stop à Londres pour compliquer le tout. Et tout le monde sait qu'à Londres, bah, c'est gigantesque. Et pour passer d'un terminal à un autre, en plus, il faut prendre le bus. Et puis ensuite, il fallait arriver aux USA, parler une langue que je ne connaissais pas du tout, et que je ne pratiquais pas. Une fois là-bas, il y a les douaniers. Ils ont eu quasiment raison de moi, les douaniers. Parce que j'avais eu la bonne idée de n'avoir que le billet aller. Parce qu'on revenait ensemble avec Alissa, mais je ne l'avais pas sur moi. Et c'est Alissa qui l'avait sur son retour, mais elle n'était pas à côté de moi. Alors, sans parler anglais, allez expliquer ça aux douaniers. No ticket. No ticket. Girlfriend, she's waiting outside, she has the ticket, un truc comme ça. Adresse, no adresse. Bien sûr, je ne connaissais même pas l'adresse où j'allais, je peux vous dire. Ça a été... je pense que j'ai épuisé leur patience. Ils ont eu pitié de moi, ils m'ont dit, allez, casse-toi. Mais c'était ma folie à moi. J'avais trop envie de revoir ma fiancée ou ma copine. Copine, ok ? À cette époque, je ne m'en souviens plus. Bref, ce besoin de rencontre, de la revoir, c'était plus fort que ce foutu océan Atlantique ou que ma crainte de l'avion. Il fallait que j'y aille. Ben, c'est la même chose pour Bartimée Zachée. L'aveugle, il se met à crier toujours plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» C'est dans ses tripes, peu importe ce qu'ils disent les autres. Zachée, lui, prend de la hauteur. Il ne se décourage pas, il monte sur l'arbre. Les deux, ils ont conscience que Jésus est un homme exceptionnel. Et ils ont ce besoin profond de lui parler, ou tout au moins de le voir. Ils ne se laissent donc pas décourager et font ce petit pas qui va conduire à la rencontre. Jésus voit Zachée. Jésus lui demande de descendre de son arbre et choisit d'aller dans sa demeure. J'avoue que cette démarche d'aller chez Zachée, elle peut entraîner un questionnement chez nous chrétiens. Et d'ailleurs, elle a provoqué des questionnements parmi la foule. On pourrait penser que c'est comme si Jésus, il honorait la maison d'un homme pécheur, d'un mauvais juif qui était corrompu. Quand même, il a fait du mal, il a volé des tas de gens. Est-ce que finalement, en allant demeurer chez un tel homme, Jésus ne lui donne pas un peu raison ? Est-ce qu'il minore ou même il ignore le péché de Zachée, alors qu'il devrait plutôt le dénoncer ? Vous savez, je crois que Jésus, il ne va pas demeurer chez un pécheur, comme le pense la foule. Mais il va demeurer chez un homme qui voudrait bien ne plus l'être. Il va demeurer chez un homme qui aspire à autre chose et qui a sa recherche. Et il l'a démontré par son attitude en montant l'arbre. Voilà la certitude que nous avons. Dieu cherche les hommes. Dieu nous cherche aussi. Et il veut s'arrêter aujourd'hui chez nous. Peu importe notre situation. Jésus souhaite ce cœur à cœur. Le regard de Jésus sur Zachée n'est pas celui des hommes. Il va au-delà des péchés. Il va au-delà des préjugés. Et il voit au fond du cœur de Zachée ce désir de le voir. Je pense que Jésus est ému. Il est ému de la démarche de l'aveugle. Il est ému de la démarche de Zachée. Il est ému de leur soif de Dieu, de le rencontrer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il le sera aussi pour nous. C'est ça qui nous permet d'accéder à Jésus malgré notre petitesse. Je vous assure, pas besoin de monter dans un arbre, pas besoin d'escalader des branches, mais peut-être simplement de nous enfermer dans notre chambre et de commencer ce cœur à cœur. Il ne voit plus le pécheur en nous, il voit l'homme, il voit la femme qui voudrait bien ne plus l'être. La démarche de nos deux personnages, en tout cas moi, elle m'inspire, elle me parle. Et il y a peut-être, je pense, un encouragement pour nous à crier à lui quand on en a besoin, comme l'a fait l'aveugle, ou en tout cas à nous engager à prendre du temps spécial pour le recevoir. Jésus veut cette discussion avec nous en toute transparence, comme il l'a fait avec Zachée. La foi chrétienne, ça ne peut être qu'une rencontre. Et cette rencontre, l'aveugle l'a eue. Avec de la persévérance, hein, pour faire tomber les obstacles, mais elle lui a permis de conduire à la question « Mais que veux-tu que je fasse pour toi ?» Cette rencontre, Zachée l'a eue, et elle a transformé complètement sa vie. Le salut est entré dans sa maison. Zachée a dû ouvrir son cœur, expliquer sa solitude, sa tristesse, ses remords, et il a pu sentir la grâce de Dieu. La rencontre avec Jésus va le relever, va le restaurer. Celui qui volait, ben ça devient celui qui va offrir. Il n'est pas dit dans le récit ce qui se dit entre Jésus et Zachée. Moi, j'aurais bien aimé être là, entendre. Qu'est-ce qui fait qu'il a eu cette attitude après de vouloir tout donner. Mais ce que je pense, c'est que la discussion, elle n'a pas été centrée sur des choses que Zachée avait à faire. Je ne pense pas qu'ils ont discuté de comment Zachée pourrait réparer tout le mal qu'il a fait. Je ne pense pas que Zachée a négocié combien il serait acceptable de donner aux pauvres. Bon, Jésus, t'en penses quoi? 20%? 40%? Allez, si t'es ainsi, je peux aller jusqu'à la moitié de ma fortune. Leur rencontre, elle n'était pas basée sur une action. Elle n'était pas basée sur des actes à réaliser, mais elle était basée sur le cœur à cœur. Jésus, il cherchait au plus profond de lui. Jésus cherche l'homme et avant tout, il cherche à rencontrer son cœur, pas ses actions. Ça m'amène à cette réflexion. Je ne sais pas si vous la partagez, mais je vais vous la dire quand même. Je pense que des fois, en tant que chrétien, on recherche souvent la volonté de Dieu pour nos vies. Ça vous arrive aussi? Oui? Oui? Ok. Mais est-ce que quand on le fait, on n'est pas un petit peu comme ça? Alors, je vais sortir mon Dieu de ma petite boîte. Voilà, je vais le mettre devant moi. Voilà, eh bien Seigneur, peux-tu me dire maintenant quelle voie il me faut emprunter? Est-ce qu'il faut que je choisisse une filière scientifique ou une filière économique? Est-ce que j'accepte ce boulot ou j'attends le prochain? Tiens, cette fille, elle me plaît bien. Est-ce que c'est elle qui est prévue pour moi ou pas? Parfois, malheureusement, je crois qu'on a tendance à utiliser un peu Dieu comme Paul le poulpe. Vous connaissez Paul le poulpe? Tu peux peut-être le trouver. Voilà. Paul le poulpe, si vous ne le connaissez pas, pourtant c'est quelqu'un de super célèbre. On dit de lui qu'il est capable de diagnostiquer les vainqueurs dans les matchs des Coupes du Monde. Alors on le lâche dans l'aquarium, il se balade et il choisit un des deux. Je n'avais pas mis la France parce que je ne voulais pas me faire du mal. Voilà. Et donc, il choisit, et selon où il va, il pronostiquerait qui va gagner. Ben, des fois, on prend Dieu un peu pour Paul le poulpe, on le lâche dans notre vie, et je trouve que finalement, cette recherche de Dieu, elle est un peu égocentrique. On la recherche juste pour valider des choix qu'on aurait à faire, juste pour se rassurer. Alors, c'est pas une mauvaise chose, attention, hein, de demander la volonté de Dieu pour nos vies, de le rechercher dans ces moments-là. Mais moi, je voulais vous rappeler ce matin l'importance de rechercher Dieu tout court. Juste lui. Et pas simplement pour quelque chose qu'on a envie de faire. Et ça, souvent, on l'oublie. L'importance de rechercher Dieu tout court. Et pas seulement par le prisme de ma vie ou des choses qui sont devant moi, mais pour qui il est vraiment. L'histoire de Zachée ne s'arrête pas à la rencontre, mais parce que Zachée est touché, parce que Zachée a expérimenté l'amour de Jésus et sa grâce, alors il est transcendé. Il est transcendé pour passer aux actes. Sa transformation interne va le pousser à entrer en action pour réparer ce qu'il a fait aux autres. Parfois, on pense que ce sont nos actions qui vont nous transformer. Souvent, on fait ça. On dit, je vais encore plus ressembler à Jésus, je vais faire des actions à droite, à gauche, je vais m'investir. Mais on se trompe. C'est avant tout notre connaissance et notre découverte de Dieu qui vont provoquer des éléments transformateurs. Et pour cela, il faut d'abord l'inviter dans notre maison, dans notre chambre, et prendre du temps avec lui. Vous savez, il y a encore un truc qui m'a enthousiasmé en préparant ce message au niveau de la sagesse et de la cohérence de la Bible. J'ai le sentiment, en lisant le chapitre 18, vous le relirez cette semaine si vous voulez, le chapitre 18 en totalité, que Jésus nous prépare à la rencontre avec Zachée dans les versets précédents. Moi, j'ai toujours lu Zachée un peu tout seul, comme une histoire qui est magnifique. Mais là, j'ai fait l'effort de monter un petit peu plus haut jusqu'au début du chapitre 18. Et vous savez ce qu'on peut y trouver là-dedans, en plus des enfants, du coup, là, c'est justement là où on peut lire la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Vous vous souvenez, ces deux hommes qui montent au temple pour prier, l'un est pharisien, qui met en avant sa façon de vivre, sa dîme qu'il donne, son jeûne régulier, et qui regarde de façon méprisante le collecteur d'impôts, qui se tient à distance et qui n'ose même pas lever les yeux au ciel. Alors qu'on nous a encouragés ce matin à lever les yeux au ciel. Et qui prie au plus profond de lui, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Cette parabole, est-ce que ce n'est pas une parfaite introduction à la rencontre qu'il va faire avec Zachée ? Parce que c'est exactement ça qui va se passer avec Zachée. Encore mieux, les amis, juste après, dans le chapitre 18, toujours, vient une autre rencontre, qui est très connue aussi. Celle avec l'homme riche. Un homme riche, tout comme Zachée. Mais un homme riche, par contre, lui, qui, a priori, il a obtenu sa richesse de façon honnête. Les versets nous présentent cet homme comme un homme bien sur toutes les coutures. Il dit qu'il respecte tous les commandements, qu'il a appris tout ça depuis sa jeunesse et qu'il a un besoin d'hériter de la vie éternelle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il demande à Jésus et qu'il lui pose ces questions-là et qu'il l'interpelle. Mais Jésus va lui répondre. Il te manque encore quelque chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Et vous savez ce qui se passe. L'homme riche repart tristement, parce qu'il avait beaucoup de biens. C'est étonnant, non, que ces histoires-là, elles arrivent juste avant celle de Zachée. Parce que c'est justement tout l'inverse de l'expérience vécue par Zachée. Vous savez, au final, il y a tout qui pointe vers une même direction. L'attitude de cœur, la vraie humilité, la vraie reconnaissance que nous avons absolument besoin de Dieu pour être sauvés. Et ça, Zachée, il avait compris. La démarche de Zachée, comme celle de l'autre collecteur d'impôts, elle est pleine d'humilité, elle est pleine de sincérité. Et c'est ça qui va être salvateur, parce qu'elle va laisser toute la place à Jésus. Zachée, c'était un mauvais juif, un traître, un notable corrompu, mais il avait besoin de Jésus, et il le savait. Et sa rencontre, contrairement au jeune homme riche, elle a laissé place à quoi ? À de la joie. Alors je vais terminer par commenter les actes qui vont suivre la rencontre entre Jésus et Zachée. Après sa rencontre, Zachée va exprimer publiquement sa volonté de partager. Moi, je ne perçois pas, je ne sais pas vous, mais je ne perçois pas ce don comme l'expression d'un regret, d'un remords pour se racheter une bonne conscience ou de payer un prix pour obtenir son rachat. Je ne le sens pas comme ça. Je pense qu'il faut plutôt le considérer comme un don qui est fait au Christ lui-même. D'ailleurs, il s'adresse à Jésus quand il dit ça. Zachée, il devient le témoin visible de la grâce qu'il a obtenue du Seigneur. Ce don, en fait, c'est le reflet de son pardon qu'il a reçu. C'est cela qui devient le témoignage vivant de sa foi. Et en redistribuant ses richesses, il abandonne aussi une part de lui-même. Mais il offre le signe visible qu'il a vraiment vécu de sa conversion. Je suis allé voir dans Lévitique 5, verset 20, où il y a la loi qui est donnée, hein, qui donne des cas où, quand tu voles, qu'est-ce que tu dois faire pour réparer ? Ben, la loi prévoit qu'en cas d'une chose volée ou soustraite par fraude, ben, la chose devait être rendue, forcément, et on devait ajouter un cinquième de sa valeur. C'était la loi. Zachée, il est poussé par le cadeau de la grâce qu'il a reçu et décide de rendre au quadruple, mais aussi de donner la moitié de ses richesses aux pauvres. C'est là où la grâce, elle va plus loin que la loi. Et on sent que cet acte de réparation, il n'est pas subi comme une obligation. Sinon, il aurait donné juste ce qu'il fallait, juste ce qui était prévu. Son cœur et la joie qu'il a ressentie le poussent à encore plus de générosité. Et quand on laisse toute la place à Jésus, alors nos bonnes actions, je pense qu'elles en découlent naturellement. Et le passage, il montre que le changement intérieur a des prolongements dans la façon de vivre. Alors c'est peut-être une question aussi que nous devons tous nous poser, et de savoir si notre foi, elle débouche sur des actes concrets, que l'on entreprend avec plaisir. Si la réponse est non, ben je ne crois pas qu'il faut se forcer à entreprendre de nouvelles actions. Mais je pense que ce qu'il faut se forcer, c'est de rechercher Dieu dans notre intimité. Et les actes, ils en découleront. Jésus va au-delà de toute espérance. Il recouvre la vue de l'aveugle, qui n'en espérait peut-être pas autant. Zachée cherchait seulement à voir Jésus, silencieusement, en haut de son arbre. Et c'est Jésus qui lui parle. Il souhaitait juste le voir passer. Et maintenant, le voilà qui l'accueille chez lui. Cet homme, considéré par tous comme un pécheur, il est qualifié, vous l'avez lu, de fils d'Abraham. Il retrouve son identité. Jésus peut aller aussi au-delà de nos propres espérances. Et il ne demande finalement qu'à demeurer chez nous. Donc j'aimerais terminer juste par ça. Cette semaine, peut-être essayons de lui ouvrir nos maisons, les maisons de nos cœurs, bien entendu, et laissons-nous transformer par sa présence, tout simplement. Amen.